sonne, c'est l'heure de retrouver votre rendez-vous dédié à l'éducation, à la pédagogie, à l'éducation nationale aussi. Sur CFM Radio, vous écoutez le carnet de correspondance en compagnie de Jean-Marc Robin, qui est toujours et bien avec nous. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Jacques. Et meilleurs vœux.
Meilleurs vœux, bonne année à toi, bonne année aux auditeurs hein, de CFM Radio. Et j'ai l'habitude de dire que c'est avec l'âge qu'on comprend que les anciens avaient raison en nous disant, surtout la santé. Hein.
Surtout la santé.
Le lycée et les lycéens au menu hein, du programme que l'on propose aux auditeurs du carnet de correspondance aujourd'hui, parce que c'est un peu dans l'actualité lycéenne, hein, cette période où... entre maintenant et on va dire le 14 mars 2024, les lycéens vont devoir hein, exprimer, formuler leurs vœux dans le cadre d'une plateforme qui s'appelle Parcoursup et que certains ont peut-être déjà entendu parler, ont peut-être déjà utilisé, pratiqué. Ces lycéens pourront formuler ainsi une dizaine de vœux et de sous-vœux à partir desquels ils seront orientés pour la suite de leurs études. Hein, et ils vont recevoir à partir du 30 mai mais les réponses de ses vœux, donc des réponses qui sont vraiment déterminantes pour leur orientation post-bac. On va voir un peu comment cela fonctionne, on va discuter de tout cela avec non seulement toi Jean-Marc qui nous éclairera sur plusieurs points, mais aussi on va passer un coup de fil dans quelques minutes à une de tes collègues, hein, Madame Christelle Kaufmann, qui est la proviseure du lycée Louis Rascol d'Albi, non seulement un lycée un peu d'importance ici dans le Tarn, mais aussi un lycée où se côtoient pas mal d'élèves avec, on va dire, une orientation pédagogique qu'elle ne manquera pas de nous souligner et de nous expliquer. Et puis on va profiter hein, de tes connaissances à toi, à Jean-Marc, pour revenir non seulement sur la réforme du lycée hein, initiée par Jean-Michel Blanquer, qui n'a pas pu être Premier ministre, mais bon, tous les ministres de l'éducation ne peuvent pas suivre le même parcours. Hein. Mais aussi, dans cette réforme, on comprendra qu'il y a une forme d'expérience lycéenne qui est aussi d'importance. Et ça, tu vas nous le souligner aussi, non seulement parce que tu connais bien le lycée, hein, tu as été lycéen toi-même, tu as été enseignant au lycée, tu as été proviseur adjoint du lycée Louis Rascol pendant 4 ans à peu près. Et tu as publié un ouvrage il y a quelques années hein, qui a été consacré aux lycéens. C'était les lycéens, portrait en expérience, une expérience en 2020. Est-ce que tu peux nous rappeler à quoi tu t'es focalisé dans ce bouquin-là sur les lycéens?
Alors en fait, je me suis focalisé avec Véronique, ma femme, hein, qui était à l'époque professeure de philosophie, sur l'expérience lycéenne, c'est-à-dire le vécu des lycéens. On a fait une galerie de portraits hein, de lycéens que nous, on a rencontrés dans différents établissements. Et puis après, on a essayé de prendre un peu de hauteur, d'analyser tout ça, et en particulier avec les outils de la philosophie ou de la sociologie. Alors moi, je suis plutôt, je viens dans ce couple d'écriture, hein, le sociologue de la bande, et puis Véronique, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, hein, la philosophe. Donc c'est vrai que j'ai trouvé intéressant qu'on fasse une émission à la fois sur le lycée, ce qui avait changé, puis parler des lycéens, parce qu'ils ont changé. Et c'est pas mal de les voir un petit peu de... quelle est leur expérience du lycée? Parce que c'est une sacrée expérience, le lycée.
C'est une sacrée expérience, mais ça reste quand même une expérience qui nous marque à vie, parce
absolument.
Que c'est un tournant majeur dans le développement des jeunes adultes et finalement des adultes que l'on devient. Est-ce que ça ressortait beaucoup dans les entretiens que vous aviez?
Oui, alors dans les observations, parce qu'on n'a pas fait d'entretien, on a fait des observations, mais
d'accord.
C'est clair que le lycée, c'est un peu le début d'une vie d'adulte. On en reparlera tout à l'heure, tu commences ta vie amoureuse, tu gères ton petit budget, parfois tu as un petit boulot, et puis tu dois te projeter. Et donc, ce n'est pas toujours simple pour les lycéens. Et on verra que ce qui marque le parcours des lycéens, c'est aussi une forme de diversité, parce que ça dépend aussi où tu es scolarisé. Hein, si tu es scolarisé dans un lycée un peu bourgeois, un peu élitiste, ce n'est pas la même expérience que si tu es scolarisé, par exemple, dans un lycée professionnel, hein, par exemple.
Eh bien, on reviendra sur tout cela hein, en seconde partie, on va dire ça comme ça, d'émission, hein, de ce carnet de correspondance qui sera vraiment dédié à l'expérience lycéenne. On va parler dans quelques minutes de la réforme hein, du lycée mise en place par Jean-Michel Blanquer. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a été ministre de l'Éducation il n'y a pas si longtemps en France. Et on va vite en parler de cette réforme parce que si on ne se dépêche pas, peut-être qu'il y en aura une nouvelle qui va nous tomber sous le coin de la table. Mais avant de parler de réforme, on va un peu avoir une expérience de terrain. On va passer un coup de fil à Madame Christelle Kaufmann, proviseure du lycée Louis Rascol d'Albi. On la retrouve après avoir écouté un peu de musique. Le titre reste de Gims en duo avec Sting.
Comme la lune lune, la nuit apparaît dans ma vie. Comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. And every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with us in the sunlight. As the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis et là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait hé, hé, hé.
CFM.
CFM Radio.
CFM Radio.
Et si on parle de lycée, de lycéens dans le département du Tarn, il y a un établissement d'importance et d'envergure, c'est le lycée Louis Rascol, où on se rend tout de suite avec nous par téléphone. Madame Christelle Kaufmann qui en est la proviseure. Bonjour Madame Kaufmann.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Alors, dire que le lycée Rascol est d'importance, ce n'est pas peu dire, hein, parce que c'est l'un des principaux établissements du secondaire hein, dans le département du Tarn. Je ne me trompe pas quand je dis ça, Madame Kaufmann.
Alors, on va quand même laisser de la place à Castres et au lycée Labor de Basse. On est à peu près équivalent en termes de nombre d'élèves, puisqu'à Rascol, on frôle les 2000 élèves et étudiants, hein, puisque à Rascol, il y a aussi, parmi les 2000, il y a 500 étudiants. Donc, Labor de Basse est aussi, mais donc on est chacun dans son périmètre géographique, voilà, ce qui est tout à fait bien.
S'il fallait présenter le lycée Louis Rascol d'Albi, pas seulement en termes de chiffres, même s'ils sont importants, en termes aussi d'orientation pédagogique, qu'est-ce que vous nous diriez ?
Alors, je dirais, moi, à chaque fois je dis, déjà Rascol, c'est la ville dans la ville, même s'il n'y a pas que les chiffres, c'est quand même 2500 élèves et adultes qui rentrent et qui sortent. Mais il y a un fort taux d'encadrement, voilà, malgré tout. Et ce que je dirais principalement, c'est que le lycée Rascol, c'est un lycée polyvalent. Alors, polyvalent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on offre des formations générales, des formations technologiques et des formations professionnelles. Ce qui permet aux élèves qui rentrent traditionnellement chez nous en classe de seconde générale et technologique ou seconde professionnelle, bah, de pouvoir bifurquer et faire des passerelles à l'interne si par hasard, ils se sont déjà mal orientés en fin de troisième. C'est un peu ça la force des lycées polyvalents. Et pour le coup, eh bien, il n'y a pas besoin de changer d'établissement. Si l'élève veut rester dans le périmètre de Rascol que je vais préciser, eh bien, c'est facilitant. Alors, le périmètre de Rascol, c'est dans les formations générales, ben, nous avons 9 enseignements de spécialité. Je ne vais pas les détailler, il y en a des classiques. Mais il y en a un quand même que je peux citer parce que nous sommes le seul sur le territoire de l'Albigeois, enfin de notre grand périmètre à le faire, c'est les sciences de l'ingénieur. Mmh. Et donc, cet enseignement de spécialité, ben, comme son nom l'indique, est destiné à avoir un petit peu une connaissance donc de tout ce qui peut se faire en termes d'ingénierie, c'est un terme très vague.
C'est mais au-delà de ça, la spécificité de Rascol, c'est ça?
Oui, on dit que le lycée Rascol, c'est un lycée technologique, industriel, technique, c'est vrai. Donc, les sciences de l'ingénieur font partie de ce domaine-là aussi, même s'ils se situent en enseignement de spécialité de la voie générale. Hein. On est quand même dans la conception. Voilà, donc on est sur des choses de futurs ingénieurs, mais ça permet d'avoir une vision globale et c'est assez intéressant. Donc ça, c'est pour la voie générale. Mmh. La voie technologique, nous avons 2 filières, donc le management et la gestion, pour les élèves qui aiment plutôt le tertiaire, voilà, l'entreprise. Et puis une filière STI, des sciences et technologies de l'industrie du développement durable. Alors là, ça ne parle pas hein, en termes de terminologie, ou très peu aux élèves et aux familles. Mais c'est cette filière STI2D amène à étudier plusieurs champs dans des thèmes très différents comme la mécanique, l'électricité, la physique appliquée, l'informatique bien évidemment, et donc des champs aussi qui sont reliés à l'ingénierie, je dirais. Mmh. Et donc des filières très porteuses en ce moment, mais qui pourtant n'attirent pas ou moins les élèves.
Ah ouais.
Moins les élèves, je dirais.
Ah bah c'est curieux. Oui. C'est curieux, on aurait pu penser le contraire.
Exactement. Et alors, ben, je fais un focus aussi là-dessus parce que non seulement ça attire de moins en moins d'élèves, alors pas spécifiquement à Rascol, hein, c'est le déclin de cette filière partout en France où en ce moment on n'est plus sur le commerce, vous voyez,
le marketing, la communication.
La vente, le marketing, la com, exactement. Mm-hmm. Et ça attire encore moins les filles. Or, ben, on a besoin de tous les potentiels, donc c'est bien que les filles aussi connaissent ces filières-là qui sont pour le moment moins attractive, voilà. Alors quand même, à Rascol, on a monté un projet spécifique par rapport à la filière STI2D qui s'appelle le Ripper Lab. Un anglicisme, évidemment, hein, qui permet
marche.
De... Voilà, alors en français, ben, c'est un laboratoire de réparation.
De réparation
de quoi? Eh bien, d'objets usagés, d'objets technologiques, sur le téléphone, la cafetière, le sèche-cheveux, mais tout aussi moins technologique, mais tout aussi important, le vélo. Et lorsqu'il y a des pannes, en fait, les élèves de la filière STI2D, depuis cette rentrée de septembre, ont un local particulier, entièrement aménagé, high-tech, avec tous les outils du dernier cri, qui permettent de détecter les pannes, alors électroniques ou physiques, mécaniques, je dirais, et de réparer avec en utilisant des matériaux de récupération ou en construisant des pièces via une imprimante 3D. C'est un projet CNR, c'est-à-dire Conseil National de la Refondation, un projet que nous avons maté tout particulièrement l'année dernière. Voilà. Et c'est en pleine expansion. Donc ça peut attirer les jeunes parce que le développement durable de ce côté-là, ça leur parle. Réutiliser les objets, les outils, les réparer pour prolonger la vie. Je crois que les jeunes sont quand même très sensibles à cette question de l'environnement.
Et je m'arrête une seconde à cela. Est-ce que ce Repair Lab, ce laboratoire de réparation, il fonctionne uniquement pour, on va dire, les 2500 personnes qui tournent à Rascol, ou bien moi, en tant que particulier, je peux faire appel à cet atelier de réparation-là?
Alors, pour le moment, comme c'est la première année de fonctionnement, on ne fonctionne qu'à l'interne, on a déjà fort à faire.
J'imagine.
Mais par exemple, on va en faire la publicité lors des journées portes ouvertes, donc là, on va pouvoir étendre. C'est un service gratuit, donc il faut juste que le jeune ou la famille apporte la pièce. Par exemple, je veux changer mon écran de téléphone portable, ben je commande ma pièce quelque part et j'amène, et là, le changement est fait au Repair Lab. L'idée, en fait, c'est que les élèves de cette filière STI2D qui apprennent des concepts sur l'électricité, la mécanique, l'informatique, ben les mettent en pratique.
En pratique,
parce que la filière a été réformée, voilà, et il n'y a plus de temps pour mettre en pratique. Et là, ils mettent en pratique. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils le font aussi avec les étudiants de la classe préparatoire qui sont aussi issus de la filière STI2D et qui viennent les conseiller quand ils font faire un petit peu de conception où il faut un petit peu cogiter quand même pour certaines réparations plus ardues, quoi. Et donc, pour l'instant, on est à l'interne, mais on espère bien pouvoir accueillir petit à petit des externes.
Madame Christelle Kaufmann, proviseure du lycée Louis Rascol d'Albi, avec nous sur CFM Radio aujourd'hui. Alors, on va aborder un autre aspect de votre vie avec les lycéens. Là, il y a bientôt la période des vœux d'orientation pour ces lycéens-là qui vont devoir se confronter à un outil qui, vu deux fois de l'extérieur, on a l'impression que c'est un goldorak. C'est le fameux Parcoursup qui leur permet de choisir leur filière de poursuite de leurs études. Déjà, rapidement, qu'est-ce que c'est exactement Parcoursup pour ceux qui n'ont pas connu ce que c'est ?
Alors, Parcoursup, vous l'avez dit, c'est un outil, c'est une plateforme. Voilà. C'est quelque chose maintenant de très commun. Hein. Tout est dématérialisé. Il y a 15 ans de cela, eh bien, on était dans les dossiers papier. Les élèves en terminale envoyaient qui un dossier à telle université, qui un autre dossier à l'autre université, etc. C'était très complexe. Là, tout est simplifié, on télécharge toutes ces pièces, tout le dossier de l'élève se retrouve sur cette plateforme, donc qui a eu plusieurs noms, mais en ce moment, c'est Parcoursup. Parcoursup ne doit pas faire plus peur que cela. Parcoursup, c'est juste l'endroit, l'outil, le système Internet, sur Internet, qui permet de retrouver tout votre dossier scolaire pour ce qui concerne Parcoursup. Donc, c'est-à-dire, eh bien, vos notes de terminale, du premier, deuxième trimestre ou du premier semestre pour les lycées qui sont en semestre, et les notes de première toute l'année de première. Mmh. Et à cela sont agrégées toutes les appréciations et donc tous les vœux des élèves possibles et imaginables pour la poursuite d'études. Mais Parcoursup, ça n'est pas que cela, c'est-à-dire que ce n'est pas que des vœux concernant l'orientation, c'est aussi la possibilité et quasi l'obligation maintenant de faire son dossier étudiant directement. On construit son dossier, c'est-à-dire on fait aussi son dossier social étudiant, parce que quand on est étudiant, souvent on a des droits qui sont ouverts, des droits financiers, et ben, dans le Tarn, tout le monde ne fait pas ses études à Albi ou même dans le Tarn, donc quand on s'éloigne, on a droit aussi à des bourses, par exemple, et suivant la situation, bien sûr, sociale des parents. Donc, c'est pas simplement je fais des vœux, c'est je construis tout mon parcours, je m'identifie, c'est un dossier qui est personnel, qui appartient à l'étudiant et non pas aux parents. Et donc là-dessus, on construit ses droits à devenir étudiant. Et ensuite, évidemment, il y a toute la partie orientation. Donc c'est vrai que ça peut paraître extrêmement complexe et nébuleux, mais la chance que nous avons en cette rentrée, enfin cette rentrée, en cette période, puisque Parcoursup ouvre le 17 janvier pour les élèves de terminale, mais il est ouvert depuis le 20 décembre en consultation. Et les élèves, à partir de la seconde, peuvent se rendre sur Parcoursup et découvrir déjà la plateforme. Et c'est la première année où il ouvre en fait en amont à d'autres niveaux de classe.
À d'autres niveaux,
oui.
On va dire que la seule difficulté avec Parcoursup, en tout cas celle qui est relayée ces dernières années, c'est un peu la plateforme qui plante parce qu'il y a énormément de connexions en même temps à certaines périodes de l'année.
Oui, alors comme tout ce qui est dématérialisé, comme nous, quand lorsque nous faisons notre déclaration d'impôt, cher Jacques,
il ne faut
pas s'y prendre au dernier moment. Chers parents, c'est partout pareil. Donc pour les orientations, c'est la même chose. On ne s'y prend pas le 13 mars pour une clôture du 14 mars, parce que non, voilà, bien sûr, il y a énormément de connexions, énormément d'élèves de terminale, mais donc voilà, on s'y prend à l'avance du 17 janvier au 14 mars, on a le temps. Le 14 mars, ça ferme pour... On ne peut plus, au-delà du 14 mars, incrémenter de nouveaux vœux. Par contre, on peut ensuite en supprimer et on peut modifier
certaines choses,
encore des choses, les projets de motivation, etc. Donc, voilà, tout n'est pas clos. Mais en tout cas, il faut mettre tous les vœux possibles avant le 14 mars, ça c'est sûr. Et donc, on ne s'y prend pas le 13 mars à 23h58. Ça n'est pas possible.
Comment vous, l'équipe pédagogique, vous accompagnez, que ce soit les lycéens ou alors peut-être les parents dans la gestion de cette plateforme de Parcoursup ?
Alors, on accompagne déjà en faisant les traditionnelles réunions d'information. Alors, à Rascol, on fait présentiel ou visio parce que maintenant, après le Covid, les parents sont aussi bien contents de pouvoir avoir une heure de visio sur Parcoursup. On en fait deux, nous. Une à l'ouverture de Parcoursup sur comment je monte mon dossier. Ça, c'est pour les parents. Et on en fait une le 29 mai, c'est-à-dire deux jours avant que les vœux tombent, les décisions de vœux tombent pour dire comment je réponds. Comment je réponds oui, comment je réponds oui si, comment je réponds non, etc. On en fait deux. Mais pour les élèves, bien évidemment, c'est au quotidien qu'on accompagne. Et là, par exemple, le 17, quand ça va ouvrir pour que les élèves construisent leur dossier, bien sûr que les professeurs principaux y sont, bien sûr que toute l'équipe pédagogique y est, parce qu'elle doit conseiller sur la poursuite d'études, chacun dans son domaine de compétences, notamment les élèves de la voie générale ont maintenant deux enseignements spécialités, à savoir si le parcours demandé post-bac correspond aux EDS, etc. Enfin, il y a un dialogue qui s'instaure. Mais nous, du côté administratif, on fait des extractions pour savoir qui a ouvert son dossier, qui n'a toujours pas commencé, qui a finalisé ses vœux, qui n'a pas finalisé, qui a validé, qui n'a pas validé, vous voyez. Donc, au fur et à mesure, on accompagne. Le plus gros du travail reste non pas dans le dossier technique lui-même, hein, mais dans le choix, évidemment. Et donc là, on mobilise les parents dès la première sur aller voir sur place, c'est-à-dire rendez-vous aux journées portes ouvertes. Là, ce week-end, il y a InfoSup, ce samedi, à toute la journée, 13 janvier. Donc, bien sûr, il faut aller à Toulouse, au MIT, mais ça vaut le coup. Il y a toutes les formations de l'Académie présentes sur site. Et puis après, donc, participer, comme je dis, aux journées portes ouvertes. Et ce qui est très important aussi, ce que font nos professeurs, c'est qu'ils font revenir les anciens élèves dans les classes, alors ça c'est tout au fil de l'année de terminale, hein, pour avoir des témoignages. Et je dirais des témoignages à la fois positifs de réussite et des témoignages moins positifs, mais qui construisent aussi le parcours, qui disent « ben moi j'ai fait ça, je n'aurais pas dû et j'explique pourquoi ». Et bien du coup j'ai fait une passerelle, j'ai changé d'orientation, etc. Souvent le témoignage des jeunes auprès des jeunes est plus porteur presque que celui des adultes, hein. Vous le savez bien, ça marche souvent comme
le
ça.
Le partage d'expérience, merci oui. Mais d'avoir partagé votre expérience en la matière avec nous. Madame Christelle Kaufmann, proviseure du lycée Louis Rascol d'Albi, merci d'avoir été avec nous sur CFM Radio et puis on vous dit à bientôt et je garde bien votre numéro de téléphone là, pour vous passer comme ça des coups de fil de temps
merci,
en temps.
Merci, n'hésitez pas Jacques, à bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
CFM Radio, 40 ans de liberté, 40 ans d'expression.
Le lycée Louis Rascol d'Albi, où il s'en passe des choses, hein, plus de 2000 élèves à encadrer et aussi à orienter là, sur cette période. Ça doit te rappeler peut-être des choses, non, à toi Jean-Marc qui est passé par là.
Oui, mais ça me rappelle des choses. J'étais proviseur adjoint. Alors moi, je ne m'occupais pas de la partie enseignement professionnel, mais de la partie enseignement général et technologique. Donc effectivement, j'ai gardé de très beaux souvenirs.
Bon, allez tiens, on parle de la réforme du lycée, la dernière réforme en tout cas qui est toujours en vigueur hein, et grâce à toi on va peut-être en savoir et en apprendre un peu plus sur la fameuse réforme de Jean-Michel Blanquer qui avait été annoncée, qui a été présentée, qui a été débattue et qui est aujourd'hui appliquée. Mais un peu de musique avant de nous y intéresser, on écoute Overnight de Parcells.
The moment I was wishing, it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing, it's overnight.
C'était le carnet de correspondance sur CFM Radio, toujours en compagnie de Jean-Marc Robin, avec pour thème aujourd'hui le lycée et les lycéens, et en particulier maintenant la réforme du lycée mise en place par Jean-Michel Blanquer, ex-ministre de l'Éducation. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà dans un premier temps, Jean-Marc, pourquoi est-ce qu'on a réformé le lycée général ?
Oui, alors c'était donc le souhait à la fois du président de la République, qui souhaitait à la fois qu'on réforme le bac dans le sens de plus de simplification. Et puis l'idée un petit peu d'adapter le lycée pour le mettre au goût du jour, l'adapter un petit peu aux jeunes d'aujourd'hui. Alors, il faut faire un petit peu d'histoire. Le lycée avant, là je vais parler surtout du lycée général. C'était trois filières. Tu avais une filière littéraire, une filière scientifique, une filière économique et sociale. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que quasiment un jeune sur deux allait dans la filière scientifique, qui vraiment phagocytait, qui prenait tous les bons élèves, pour faire simple. La filière littéraire... que moi j'ai fréquenté, elle était vraiment en déclin, avec très peu d'élèves, finalement 8 à 10%. Et puis la filière économique et sociale, que je connais bien, puisque j'enseignais les sciences économiques et sociales pendant 17 ans, on arrivait à survivre, mais au prix d'aménagement des épreuves du bac. Tu vois, par exemple, on avait deux dissertations, puis après on est passé à une dissertation, une épreuve composée, en essayant de s'adapter à des difficultés qu'ont rencontré nos élèves, notamment dans le domaine de l'argumentation et de l'expression écrite. Donc il y avait vraiment une nécessité d'adapter le lycée, puisque le lycée français, pour donner quelques chiffres, parce que c'est important de le donner, bon moi je suis un peu vieux, j'ai passé le bac en 1984. Et en 1984, tu avais que un tiers des jeunes qui rentraient au lycée. Aujourd'hui, c'est la plupart des jeunes qui rentrent au lycée. Alors là je compte tous les lycées, c'est général, technologique et professionnel, et on est sur des taux de réussite à l'examen qui sont proches de 90%. Donc on peut dire qu'entre 1985 et 1995, tu as eu une espèce de massification du lycée. Alors bon, les sociologues parlent parfois de massification, de démocratisation ségrégative, parce que chacun est resté un peu dans son rail.
Dans son rail, ouais, finalement.
Voilà, c'est vrai que beaucoup d'enfants, d'employés, d'ouvriers continuent de fréquenter le lycée professionnel. Les enfants plutôt issus des classes moyennes supérieures ou bourgeois, le lycée général. Et puis après, les autres enfants, ils se répartissent un petit peu dans les trois lycées. Donc c'est vrai que... Il y avait cette idée que le lycée général, ça fonctionnait plus, puisque concrètement, tu avais une filière qui devenait le lycée. Et c'est vrai qu'à cette époque, l'idée, c'est de se dire, on va offrir plus de choix aux jeunes. On va pas les enfermer dans un couloir, série littéraire, économique et sociale et générale. On va leur proposer toute une gamme d'enseignements de spécialité dont on reparlera tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que ça avait été une revendication des mouvements lycéens aussi. Laissez-nous du choix. Nous, les lycéens, finalement, dans notre parcours scolaire, dans notre curriculum, on peut décider de rien. Ah, si, de quelques options, mais imaginons que moi, j'ai un intérêt à la fois pour les sciences économiques sociales et puis en même temps, je ne sais pas, moi, pour les SVT. Si je veux faire ce parcours, ce n'était pas possible. Soit je faisais un parcours scientifique, soit je faisais un parcours sciences économiques et sociales. Donc, en fait, c'était l'idée de donner plus de choix, donner un peu plus le temps aussi aux élèves pour découvrir des disciplines différentes, et puis pour construire leur projet d'orientation. Donc ça partait d'une très bonne intention. Plus de liberté, plus de choix, et avoir un menu plus riche. Et avec cette idée aussi de remobiliser les élèves, puisque finalement tu avais la classe de seconde, concrètement, on en reparlera tout à l'heure, c'était une espèce de choc de liberté. En classe de première, tu avais une seule épreuve, le français, et parfois ce qu'on appelait aussi les travaux personnels encadrés. Mais disons, le gros de l'affaire, c'est la terminale. Donc en fait, on a essayé, c'était l'idée de réintroduire du contrôle continu pour que les élèves se mobilisent davantage, hein, et qu'ils soient mieux préparés au baccalauréat.
Préparé, ouais.
Donc si on revient finalement sur cette idée de qu'est-ce qu'a apporté la réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer, c'est l'introduction du contrôle continu, qui pèse désormais pour 40% de la note, donc ça c'est pas rien, hein. Des écrits en nombre limité, hein, c'était vraiment l'idée du président de la République, c'est-à-dire que concrètement les élèves passent les épreuves suivantes, français, en classe de première, je l'ai dit, philosophie et deux enseignements de spécialité, on va y revenir. Et puis c'était une nouveauté, et là je pense que c'était un joli tournant d'introduire un grand oral. Alors en fait ce grand oral c'est un oral que tu passes devant un jury de deux personnes, mais ça permet aussi de valoriser les compétences orales qui n'étaient peut-être pas assez soulignées dans le lycée un peu classique et traditionnel. Et aussi de mieux les préparer un peu au monde du travail. Parce que
c'est ça qui leur prépare à plus tard.
C'est ouais. ça, parce que si tu veux diriger une équipe, si tu veux t'exprimer, si tu veux passer un entretien d'embauche, ouais. si tu veux passer un concours, il y a des épreuves orales. Donc c'était important de former les jeunes à l'oral. C'était un peu l'idée qui était soulignée ici.
Est-ce que, au travers de tout ça, ça a été mis en place il y a quand même un certain nombre d'années, est-ce qu'on peut déjà parler de bilan?
Alors c'est très difficile de faire un bilan, tu sais, parce que le temps de l'école c'est un temps long, les fruits ils poussent pas tout de suite. Ce qu'on peut dire c'est que quand même que les jeunes se sont emparés de ce choix-là. Hein, les enseignements spécialités, alors on va le rappeler pour nos auditeurs parce qu'ils le savent pas forcément. Alors je connais pas la liste par cœur, hein, donc je vais la lire. Donc il y en a 11. Donc tu as, quand tu es en classe de première, hein, tu vas choisir 3 enseignements de spécialité parmi la liste suivante. Biologie, écologie, éducation physique, pratique et culture sportive, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité et littérature et philosophie. Donc tu vois, on offre la possibilité aux jeunes de faire de la philosophie dès la classe de première, alors, ça c'est associé à la littérature, langue et littérature et culture étrangère et régionale, littérature, langue et culture de l'Antiquité, mathématiques, numérique et sciences de l'informatique, tu vois ça c'est nouveau, physique-chimie, sciences de l'ingénieur, sciences de la vie et de la terre, sciences économiques et sociales et arts. Donc en fait, les jeunes, ils doivent choisir dans cette palette d'enseignement.
Ouais. Mmh.
Alors attention, parce que tous les enseignements de spécialité ne sont pas forcément implantés dans tous les lycées. La plupart le sont. Parfois, si tu veux, par exemple, imaginons que tu sois au lycée Rascol, si tu veux faire des arts, il faut aller au lycée Bellevue. Et si tu es au lycée Bellevue et que tu veux faire des sciences de l'ingénieur, ben, il faudra que tu partes au lycée Rascol. Donc, c'était vraiment l'idée d'associer à leur cursus hein, les élèves en faisant un choix. Donc concrètement, ils choisissent 3 enseignements de spécialité en classe de première, et puis ça fera 3 fois 4 heures hein, dans leur emploi du temps. Et puis après, en classe de terminale, ils en abandonnent un, et donc, qui va compter pour le contrôle continu. Et puis, ils seront évalués sur 2 enseignements de spécialité en classe de terminale. 2 grosses options de 6 heures, en fait, si tu veux. Voilà comment ça marche.
Sans parler de bilan, mais est-ce qu'on peut au moins souligner comment cela a été accueilli, comment c'est vécu par les lycéens? Aujourd'hui, tu côtoies beaucoup plus des collégiens, mais j'imagine peut-être que tes collègues qui sont encore en lycée doivent te dire, bon, on les sent beaucoup plus détendus qu'avant, beaucoup plus responsabilisés peut-être,
Faudrait leur demander. Moi, je pense que du côté des lycéens, ça a été plutôt bien accepté. Hein. Du côté des équipes, ça a été plus compliqué parce qu'il a fallu... je dirais changer son de cadre en fait. Hein, et ce qui a aussi posé aux équipes, c'est qu'il a fallu d'abord rompre avec des routines pédagogiques, ce qui n'est pas toujours évident parce que on demande beaucoup à l'école et donc parfois pour les collègues c'est un peu compliqué. Et puis si tu veux, le groupe classe, comme tu as beaucoup d'enseignants qui interviennent, eh bien il a un peu explosé quoi. Donc le système, ça c'est peut-être quelque chose que le système n'a pas mesuré. Alors, il y a eu une petite réponse qui a été apportée, et je pense que c'est une réponse un peu essentielle, c'est qu'en classe de terminale, il y a 2 professeurs principaux. Donc, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Parcoursup avec Mme Kaufmann, donc ça permet de faire un suivi un peu plus individualisé.
Un peu plus, ouais.
Donc, du côté des élèves, je dirais que ça a été plutôt, plutôt bien vécu, parce que finalement, celui qui veut faire des sciences, il peut continuer sur son choix. Hein. Tu aimes les sciences, tu fais des mathématiques, des sciences physiques, tu peux faire de l'informatique, ça ne t'empêche pas de faire un parcours scientifique. Celui qui aime les lettres, il peut faire des langues et de la littérature, et même de la philosophie de la classe de première. Donc si tu veux, par rapport au parcours des élèves, ça n'enlève rien. Simplement, le choix des enseignements de spécialité, l'a un petit peu évoqué tout à l'heure Christelle, c'est qu'il faut quand même réfléchir. Hein, parce que quand tu as tes 2 enseignements de spécialité en terminale, il faut réfléchir un petit peu à ton parcours post-bac. Donc c'est vrai que tout ce qui est éducation et orientation, il faut le commencer hein, dès la classe de seconde, première, et quand même dire aux élèves, attention, hein, vous faites plaisir, c'est important. Ça peut être un moteur aussi de motivation, mais choisissez bien aussi, surtout quand vous êtes en terminale, attention à vos enseignements de spécialité, parce qu'ils peuvent être déterminants aussi dans le cadre de Parcoursup. Donc il faut faire un accompagnement des élèves, hein, ça c'est vraiment très important.
Le lycée, les lycéens au menu de ce numéro de carnet de correspondance que vous écoutez sur CFM Radio en compagnie de Jean-Marc Robin. On va marquer une pause musicale en écoutant Timbaland, le titre Apologize. Et juste après, on parlera d'expérience lycéenne, un domaine que tu connais bien pour avoir été l'une des plumes, hein, le co-auteur d'un ouvrage, hein, qui nous intéressait sur cette question qui sortit en 2020. On y revient après avoir écouté Apologize de Timbaland et One Republic.
Holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. Say, hey, that it's too late to apologize.
Apologize sur CFM Radio, dans le carnet de correspondance en compagnie de Jean-Marc Robin. Nous nous intéressons au lycée et à la vie des lycéens en première partie de l'émission. Si vous avez pris le train en marche, nous étions en compagnie de Madame Christelle Kaufmann, hein, qui est la proviseure du lycée Louis Rascol d'Albi, qui nous a expliqué un peu comment ça se passe dans son établissement, quelles sont les options qui sont permises, la pédagogie qui est enseignée. Mais on a aussi beaucoup évoqué Parcoursup et donc l'orientation qui est permise à ces lycéens là pour la suite de leurs études. Et maintenant avec toi Jean-Marc, bon, il faut quand même que je rappelle que tu, en première partie aussi, tu nous as expliqué un peu la réforme du lycée qui est en cours actuellement et d'où elle est partie. Ça, c'est aussi important de savoir un peu les différentes modifications qui sont faites, parce que le lycée que toi et moi avons connu à deux époques différentes, bien sûr, hein, et que d'autres aussi ont connu, n'est plus forcément le même pour plusieurs raisons. Et c'est un peu de ça dont on va parler maintenant, avec un terme que tu as d'ailleurs utilisé dans un ouvrage que tu as coécrit, c'est l'expérience lycéenne. Et qu'est-ce que tu entends par cette expression en elle-même ?
Alors, cette jolie expression de expérience lycéenne, en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un très grand nom de la sociologie qui s'appelle François Dubé, hein. C'est vraiment une pointure en matière de sociologie. Et il a écrit un ouvrage de référence en 1991, qui s'appelle tout simplement « Les lycéens ». Et lui, il avait une approche de sociologue, c'est-à-dire qu'il essayait de voir s'il n'y avait pas des catégories de lycéens. Donc, il distinguait dans son ouvrage, hein, plusieurs types de lycéens. Donc, tu vois, il a écrit son ouvrage, tout à l'heure j'en parlais, au moment où des dits glorieuses pour le lycée de 85 à 95, quand, justement. Et donc, il distingue plusieurs catégories lycéens. Hein. Les vrais lycéens, alors tu vois, c'est des lycéens parisiens qui vont faire des classes préparatoires, ils sont dans un lycée élitiste, donc ils ont une expérience, je dirais, scolaire et lycéenne très particulière. Tu as aussi les autres lycéens, les vrais lycéens dans les autres lycées, hein, qui tiennent aussi voilà, de bons lycéens. Donc, la deuxième catégorie, c'est les bons lycéens. La troisième catégorie, c'est les nouveaux lycéens. C'est en fait les élèves qui sont un peu rescapés de la sélection scolaire. C'est-à-dire concrètement, si on avait gardé les taux de sélection dont je te parlais là en 84, bah c'est des lycéens qui, aujourd'hui, la moitié des lycéens, si on gardait les taux de sélection, ne seraient pas au lycée. Ils seraient dans la voie technologique, enfin, ils seraient dans la vie active et en lycée professionnel. En tout cas, ils ne seraient pas dans le lycée d'enseignement général. Et enfin, Dubé, il distingue ce qu'on appelle les futurs ouvriers. C'est les élèves qui vont fréquenter les lycées professionnels et qui vont, pour une partie d'entre eux, un sur deux, rentrer dans la vie active après leur bac pro. Alors nous, en fait, ce qu'on a fait avec Véronique, on est parti du concept d'expérience lycéenne et puis on l'a retravaillé et on parle plutôt, nous, de figure lycéenne parce qu'on estime que les choses ont un petit peu changé. Alors concrètement, ben, on va avoir aussi notre petite typologie. Alors, je vais la citer. Donc tu as d'abord ce que nous on a appelé les intermittents. C'est des lycéens, si tu veux, bon, ils s'engagent pas vraiment dans leurs études, tu vois, ils ont un pied dans leurs études, un pied dans leur vie juvénile, ils travaillent toujours à l'arrache, ils travaillent au coup par coup, ils ont pas ce qu'on appelle un rapport cultivé au savoir, c'est-à-dire que bon, ils étudient, mais ils cherchent pas à approfondir, pour faire simple, hein, tu vois, ils se projettent pas dans les savoirs. Ce qui est important, c'est, je dirais, de trouver un bon équilibre, de minimiser leurs efforts, voilà. Alors, tu sais, dans le langage des professeurs, moi, j'étais professeur. Et ces lycéens, on les appelait souvent aussi entre nous, là, pour les... En salle des profs, hein, pas devant les élèves. Hein, les touristes.
Ils viennent, mais bon, quoi.
Concrètement, un coup, je viens, un coup, je viens pas. Ils ont un taux d'absentéisme un petit peu élevé.
Mais ça ne présage en rien du futur, par contre.
Absolument,
hein.
Absolument. Après, tu as, ben, je dirais, de l'autre côté de cette cartographie, tu as les intellos. D'ailleurs, c'est souvent les élèves qui désignent les autres, ceux qui s'impliquent dans leurs études, qui surinvestissent leurs études comme un télo. Et parfois, moi j'ai eu cette expérience-là quand j'étais au lycée Rascol, tu peux avoir des élèves qui se mettent eux-mêmes en souffrance, c'est-à-dire qu'ils sont tellement investis, ils surinvestissent, que tu vois, s'ils n'ont pas 18, c'est le drame. Quoi.
Ouais,
je me rappelle encore, et on fait son portrait dans notre ouvrage, de ce lycéen, mais... type très investi, très 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 intelligent, mais qui se mettait une pression, c'était pas croyable, au point de se scarifier et au point où on était très inquiet pour lui.
Il se disait il peut avoir une forme de dépression
et puis on était très inquiet, donc on a dialogué avec lui, etc. Et tout s'est bien passé. Troisième catégorie, les studieux, qui sont nombreux, hein, c'est des lycéens de bonne volonté, voilà, qui essayent de profiter de leur jeunesse aussi. Ils respectent les normes et les vertus scolaires, ils ne sont pas dans la contestation, ils font leur boulot. Trop beaucoup de filles hein, dans cette catégorie-là. Hein. Et enfin, tu as une petite minorité, les rebelles. Alors ceux-là, c'est souvent des lycéens qui sont attachants parce que différents. Alors ceux-là, ils vivent le lycée et je dirais, ils ont un engagement politique ou syndical. Alors donc, eux, bah, ils défendent des causes. Alors bien sûr, hein, les études pour eux, c'est important. Mais tu vois, l'environnement, le féminisme, l'altermondialisme, l'anticapitalisme, le LGBT, tout ce qui est la défense des LGBT, c'est vraiment quelque chose de très important qui est presque central dans leur expérience. C'est-à-dire qu'eux, ils font de l'expérience du lycée, à la fois une expérience scolaire, j'apprends des choses, mais en même temps, ils sont en construction en tant que presque futurs militants.
Ouais, c'est
la socialisation
citoyen,
politique.
Ouais.
Voilà. Ils prennent vraiment à cœur cette dimension-là, autour des thématiques qui aujourd'hui passionnent la jeunesse. Donc eux, ils ont toujours peur que le lycée les formate. Hein, donc leurs professeurs, ils voient un peu leurs professeurs un petit peu comme voilà, ce pouvoir patriarcal qui va leur dire ce qu'il faut penser, hein, comment il faut penser leur vie, alors que ce n'est pas du tout le projet des professeurs. Hein. C'est au contraire un projet d'émancipation. Mais tu vois, ils sont un petit peu rebelles, sont souvent hein, de bons lycéens et qui sont souvent aussi très présents dans les très bons lycées. Voilà. Donc, en revanche, par rapport à Dubé, à François Dubé, nous, ce qu'on estime, c'est que ces identités, elles sont flottantes. C'est-à-dire que ces figures-là, tu peux très bien, en fonction du lycée où tu es, scolarisé, en fonction aussi de tes copains, en fonction aussi de ton intérêt personnel, passer d'une identité à une autre. Tu vois, tu peux être studieux et devenir intermittent. Tu peux être intello et devenir, parce que tu as des copains qui font de la politique, qui devenir rebelle. Ça peut flotter, quoi. Donc... ce qui est important de comprendre, c'est que l'expérience lycéenne, c'est une expérience collective.
elle se passe dans un cadre. Et en fonction du lycée où tu es, en fonction de la classe dans laquelle tu es, tu vas vivre les choses un petit peu différemment. Prenons par exemple la question du rapport à la politique. Si tu es scolarisé avec des copains qui font de la politique, ben t'as plus de chances d'en faire, quoi. Si tu es scolarisé dans un lycée qui est un peu élitiste, c'est clair que le profil intermittent ne va pas être adapté.
Ouais.
Voilà, parce que d'abord parce qu'on va te faire comprendre que ce n'est pas possible dans ce lycée-là. Et puis, si tu ne te mets pas à la page, si tu ne travailles pas, ben concrètement, on va un peu te pousser vers la sortie en te disant « tu t'es trompé, mon gars ».
Trouve-toi un autre établissement, quoi.
Donc, c'est un petit peu ça qu'on a voulu dire avec Véronique, c'est que on est vraiment dans un monde un peu fluide, hein, c'est ce que disent les sociologues, société qu'on appelle un peu liquide, ça flotte, et ça flotte d'autant plus que les lycéens, ce qui les marque, c'est la liberté, hein, ce choc de liberté.
Eh bien, ça, c'est une forme de cartographie du lycée. Ça permet déjà d'avoir chacun de nous, en fermant les yeux, doit pouvoir soit se mettre dans une case, soit même par honnêteté, on va dire, intellectuelle, soit voir qu'ah oui, un tel était dans telle case, là. Et moi, j'en connaissais pas mal des touristes, d'ailleurs, quoi. J'étais peut-être aussi une
moi,
forme de...
Moi, je connaissais pas mal de rebelles.
Ah oui. Je pense que moi, j'étais un peu un guide touristique aussi, quand même. Ouais. Mais est-ce qu'on peut pas dire que dans tout cela, il y a quand même, il n'y a pas des invariants dans cette expérience lycéenne, il y a quand même des choses qui restent, quoi.
Absolument. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, tu n'as pas un lycée, tu as deux lycées. Tu as celui de l'institution scolaire, celui des adultes, celui des savoirs savants, et puis tu as un lycée un peu invisible, un peu souterrain, c'est ce que dit un sociologue qui s'appelle Patrick Rayoux, et c'est le lycée des élèves. Et eux, ils font des expériences, hein, avec des rites de passage. Alors, peut-être que ça fera plaisir aux auditeurs de se remémorer ces grands moments-là. Alors, parmi les rites de passage, hein, rappelons la première cuite.
Souvent.
Ouais. Malheureusement, parfois, les collégiens ont commencé avant et ça, c'est pas très bien. La première cigarette ou le premier joint.
Ouais.
La première fois. Tu sais que les lycéens, général, le premier rapport sexuel, c'est autour de 17 ans, on en a déjà parlé. La première manif. Hein, c'est souvent lycée que tu développes une conscience politique. Le premier séchage de cours. Avec des cours que t'aimes pas trop.
C'est vrai que c'est un peu plus facile au lycée.
Voilà, c'est plus facile au lycée. Au collège, c'est plus compliqué, hein. Ou des professeurs que tu n'aimes pas. Et puis aussi une expérience que nous, on relate dans notre bouquin, c'est l'expérience de la triche. C'est-à-dire que, bon, t'as des élèves qui n'étaient pas du tout tricheurs au collège et qui vont s'y mettre. Ils vont s'y mettre pourquoi? Attention, c'est pas que le fait des élèves en difficulté. Parce que t'as la pression.
La pression,
ouais. T'as la compétition. Et tu vois, par exemple, Parcoursup, l'enjeu sur les notes, le contrôle continu, etc. Et moi, je peux te dire, quand j'étais professeur adjoint, ça m'était arrivé de sanctionner des élèves qui étaient de très bons élèves. Et j'aurais jamais pensé qu'ils étaient capables de tricher. Mais en fait, ils te l'expliquent, hein. Donc, soit aussi, donc c'est parce qu'ils veulent maximiser, soit aussi parce qu'ils veulent maximiser leur temps libre.
aussi.
Tu sais, aujourd'hui, je peux te dire une chose. Pour avoir une lycéenne à la maison, ChatGPT, ça marche bien.
Ah ouais,
je peux te dire que le nombre de devoirs
qui
sont faits avec ChatGPT, moi je dis à mes collègues qui sont professeurs de lycée de faire ce que moi je faisais, c'est-à-dire rien à la maison. Parce que là, si tu veux,
tu fais
faire par ChatGPT en ce moment.
C'est
incroyable.
C'est vrai que les rédactions, les professeurs doivent lire des choses très poétiques.
Les travaux écrits, il faut les faire au lycée parce que tu ne sais pas qui tu corriges, en fait.
C'est clair, quoi.
Non, tu vois, ce qui marque l'expérience, on parlait des invariants, c'est cette idée de liberté, quand même. Il va falloir gérer cette liberté.
Mais parce que c'est là où on l'acquiert vraiment quand on est au lycée.
Absolument.
Tu vois, une forme de liberté, d'autonomie, de responsabilité aussi.
C'est
parce
ça.
Que la liberté, ça va aussi avec, hein, une forme de responsabilisation. Et c'est pas parce que les parents n'ont plus le temps ou n'ont pas envie, mais c'est que c'est un peu comme ça aussi.
Oui, alors c'est à la fois, si tu veux, l'institution scolaire, elle propose, par exemple, quand tu es au lycée, tu peux rentrer, tu peux sortir, il n'y a pas cours, tu vas boire un café avec tes copains. Et puis après, comme je disais aux élèves, il ne faut pas oublier de rentrer, hein, pour faire le prochain cours. Et puis après, si les élèves ont plus de liberté, c'est parce qu'aussi ils cherchent à s'émanciper. Et puis pour les parents, c'est plus compliqué parce que les savoirs sont tellement experts que tu peux plus mettre le nez dans le cours des élèves. Tu n'es pas sûr de pas dire une bêtise. Hein. Moi, j'enseignais les sciences économiques et sociales, on en parlait. Tu peux pas suivre le cours de sciences économiques et sociales. Il y a tellement de vocabulaire, tellement de concepts. Alors, c'est valable dans toutes les disciplines. Hein. Il vaut mieux que les élèves s'entraident entre eux. Donc, c'est ce choc de liberté qui va vraiment être l'expérience lycéenne. Il faut bien le gérer. Moi, j'ai vu des élèves tomber, hein, c'est-à-dire des élèves qui étaient de très bons collégiens, qui arrivaient, tu vois, qui mentionnent bien, et qui ont raté leur seconde, quoi. Parce qu'il y avait trop de liberté d'un coup, et que c'était très compliqué pour eux de le gérer. Bon, après, ils se sont repris hein, la plupart du temps, hein, donc pas d'inquiétude non plus. Et puis après, ce qui va compter aussi, c'est le groupe de pères, c'est-à-dire que les copains, les amis, tous les parents le savent, hein, vont prendre une importance mais considérable et vont influencer les destins des jeunes. C'est pour ça que les parents ont souvent beaucoup d'inquiétudes, qu'ils essaient de choisir l'établissement scolaire de leur enfant, et puis après, de faire passer des messages à leurs enfants sur le choix des copains. Hein, si tu as des copains qui ont un rapport un peu intermittent au lycée, c'est vrai que quand t'es parent et que toi, tu penses que ton fils ou ta fille doit se projeter dans des études un peu longues, c'est vrai que il y a des frictions, hein, il peut y avoir des petites frictions. Les copains, la liberté, hein, c'est ce qui marque quand même l'expérience lycéenne.
Et puis, ne pas oublier hein, qu'en tant qu'adulte référent, il faut garder un lien avec ces jeunes qui restent des adolescents quand même.
Alors
il faut
continuer ça, c'est une erreur
de conseiller, d'encadrer.
C'est ça, c'est vraiment une erreur que ne doivent pas faire les parents, hein, c'est-à-dire qu'il faut maintenir ce lien, je sais que ce n'est pas facile, hein. Moi j'ai eu deux enfants aussi, toujours continuer à dialoguer avec eux, à parler avec eux, et ne pas oublier que ça reste encore des ados, les lycéens, hein. C'est-à-dire qu'ils sont envahis par leurs émotions, donc un coup ils sont up, un coup ils sont down, et ne jamais perdre de vue, quoi. Et puis être indulgent aussi, parce que nous-mêmes, quand on a traversé le lycée, parfois, il faut se rappeler que c'était pas toujours facile.
Pas toujours facile, mais qu'est-ce que c'était bien quand même.
Oui, moi j'ai adoré mon lycée. Tu vois, autant le collège, personnellement, j'ai pas trop aimé alors le lycée, mais qu'est-ce que j'ai adoré.
Très belle période à vivre, et c'est une période, selon toi, et c'est avec cela qu'on va conclure, qui mériterait qu'on s'y repenche un peu plus en profondeur, de manière, on va dire, sociologique et philosophique aussi, parce que tu me le disais, il n'y a plus de bouquins sur vraiment l'expérience lycéenne et même la pédagogie lycéenne depuis pas mal d'années.
C'est ça, c'est-à-dire que moi je suis à peu près de près à les publications, alors je parle des ouvrages, je parle des articles, parce qu'il y a toujours des articles qui sont publié par les sociologues, mais tu vois, le grand bouquin sur les lycéens, c'est 1991, donc c'est il y a 32 ans. En fait, on connaît mal nos lycéens. Alors bien sûr, tu as les travaux en sociologie sur les inégalités, le décrochage scolaire, l'éducation prioritaire, ce que Anne Barrère appelle l'éducation missionnaire. Tu sais, c'est quand les élèves apprennent par eux-mêmes la musique, les pratiques culturelles, etc. Mais on n'a pas une bonne connaissance de nos jeunes, tu vois. Donc ça, c'est un vrai souci. Et moi, je pense... Bon, tu vois, on a changé de ministre. Je pense que, peut-être donner des conseils au ministre, je ne me permettrai pas, mais je suggérais cette idée de lancer un appel à projet pour mieux connaître les jeunes et les lycéens. Tu vois, pour que des sociologues, des philosophes, en tout cas des chercheurs, se penchent un petit peu sur les lycéens, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Le Covid, le téléphone portable, la massification du lycée, toutes les nouvelles pratiques culturelles, la question des identités sexuées qui sont très flottantes. Hein. Tu vois, à mon époque, hein, tu étais un garçon, tu étais une fille... On avait quelques amis qui étaient homosexuels, mais tu n'avais pas des identités flottantes, non-binaires, enfin, toutes ces identités-là, on n'en connaissait pas. Quoi. Le rapport à la politique, le rapport à la religion qui fait un retour, alors qu'à notre époque, on n'en parlait absolument pas. Toutes ces questions, c'est des questions vives. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on connaisse un peu mieux nos lycéens comme nos collégiens. Hein. Donc là, je suis incapable de te citer un grand bouquin qui parle des lycéens. C'est fou, quoi. Et alors qu'on a, en matière d'éducation, en sociologie d'éducation en France, d'excellents chercheurs. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a un désintérêt pour l'école ? Des fois, je me pose la question.
Mieux comprendre notre jeunesse pour mieux l'accompagner, c'est ainsi que tu t'exprimes par rapport à ce sujet-là, hein, pour appeler de tes voeux, hein, des travaux de recherche qui soient faits en la matière, afin donc de mieux connaître cette jeunesse-là.
Oui, je pense que quand on est un décideur politique, il faut vraiment... avoir une expertise et s'appuyer sur une bonne connaissance des publics hein, qui sont visés par ces politiques publiques. Et effectivement, là, je pense qu'il y a vraiment un gros travail de recherche à faire rapidement, mais y compris sur les collégiens, tu sais, les collégiens, les lycéens, finalement, on ne les connaît pas très bien. Et on parlait du rôle du téléphone, on sait très bien que des choses sont en train de se passer, y compris dans le cerveau des enfants. Donc c'est vrai qu'il faut se pencher dessus.
Eh bien, ce sera le mot de la fin sur ce numéro consacré au lycée et aux lycéens. Merci beaucoup Jean-Marc pour toutes ces lumières. On remercie à nouveau hein, Madame Christelle Kaufmann, la proviseure du lycée Louis Rascol d'Albi.
Merci à Christelle.
Qui nous a bien éclairé aussi sur pas mal de choses qu'on n'a peut-être pas connues, nous, parce qu'à notre époque, il n'y avait pas Parcoursup, parce qu'il n'y avait pratiquement pas Internet, tout simplement. Une émission, si vous l'avez prise en cours de route et que si elle vous intéresse, bien, vous pouvez la réécouter en podcast sur cfmradio.fr. C'était Carnet de correspondance. On se quitte avec le titre Espoir de Marianne Rock. Et oui, Espoir, c'est le début d'année.
Tu te sens bien. Tu le sens là dans ton ventre, t'es juste bien. Y a des moments comme ça, reconnais-le. Aucune, prends-le et garde-le bien. Espoir. Autiste, souris pour la première fois. T'as accepté la liste des choses qu'il fera pas. Quand tu sais qu'il a tes yeux, qu'il a même pas pris ta rage. On sait que tu fais au mieux, madame mère courage. C'est quand ton gamin fait ses premiers pas. Et là le reste du monde n'existe pas. C'est quand ton dernier prend son appart. Mais tu sais comme parent t'as pas joué toutes tes cartes. C'est quand pour une fois t'es pas dans le rouge. Tu vas faire plaisir à tes petits qui font la mousse. C'est quand ton boss te regarde un peu de haut et qu'il te dit t'as bien bossé, bravo. C'est quand t'as tout donné dans ta petite entreprise. T'as fait sauter tes week-ends, tes salaires, tes vacances. Et tout à coup elle décolle comme une surprise. On peut pas dire que c'est de la chance. C'est quand tu te sens bien. Tu le sens là dans ton ventre, t'es juste bien. Y'a des moments comme ça, reconnais-le. Recule, prends-le et garde-le bien. Espoir. Avec tes potes et qu'il y a aucune barrière. Des galères mais t'es libre, entre vous y'a aucune porte. Quand t'as un appel manqué du mec qui te fait rêver, tu fais un peu traîner avant de le rappeler. C'est quand des marches s'organisent un peu partout sur la terre qu'on réalise enfin notre bêtise. On étouffe l'atmosphère. C'est quand tu serres la main d'un inconnu, y'a un truc qui se passe, vous êtes ensemble dans la rue. Quand tu sens que ça change, que ça va peut-être le faire, il suffit qu'on se mélange, viens on sauve la terre. Viens on sauve la terre. C'est quand tu te sens bien. Tu le sens là dans ton ventre, t'es juste bien. Y'a des moments comme ça, reconnais-le. Recule, prends-le et garde-le bien. Espoir. Y'a un truc qui se passe, vous êtes ensemble dans la rue. Quand tu sens que ça change, que ça va peut-être le faire, il suffit qu'on se mélange, viens on se...